Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Rencontre entre les chefs d'État de la CDAO et le chef de la junte militaire malienne à Accra. Aussi l'annonce du décès de l'ancien président du Mali, Moussa Traoré, qui avait dirigé le pays d'une main de fer. Bref et symbolique retour politique de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, qui a siégé pour la première fois au Sénat. Signature ce mardi à la Maison Blanche des accords historiques entre Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest rencontrent le colonel Assimi Goïta, chef de la junte militaire malienne au Ghana aujourd'hui mardi, date limite fixée pour la désignation d'un président et d'un premier ministre civil afin de mener à bien la transition dans le pays. Plus de détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Les regards des Maliens étaient tournés vers la capitale ghanéenne Accra, où se déroulait un sommet de la CDAO sur la crise malienne. L'organisation sous-régionale a pour la circonstance invité le président du CNSP à venir faire le point de la situation avec des propositions sur le déroulement de la transition malienne. Le colonel Assimi Goïta a fait une présentation devant les chefs d'État. C'est à la suite de son exposé qu'un accord de principe a été obtenu pour accompagner l'achat de la transition sous quelques réserves. Les chefs d'État tiennent à revoir certaines dispositions comme la présidence d'un civil, la libération sans condition des personnalités politiques détenues de manière extrajudiciaire, un retour à l'ordre constitutionnel en abrogeant l'acte fondamental et en s'inscrivant dans l'article 122 de la Constitution qui ne désigne que deux organes pour la transition, à savoir le comité de transition et le gouvernement. Ce qui veut dire que c'est le gouvernement qui va légiférer par ordonnance. Un communiqué avec d'amples informations sanctionnera ce sommet. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nous avons également appris le décès de l'ancien président malien Moussa Traoré à l'âge de 83 ans. Moussa Traoré avait été à la tête du Mali de 1968 à 1991 avant d'être renversé par un coup d'État militaire. Nous y reviendrons en partie magazine. Au Burkina, deux djihadistes ont été neutralisés par l'armée au cours d'une opération à Tongo-Mayel, dans le nord du pays. L'état-major burkinabé affirme avoir démantelé une base. Des engins explosifs improvisés et divers matériels ont été récupérés selon leur communiqué. Amnesty International et 5 ONG internationales ont demandé aujourd'hui la libération immédiate de 3 défenseurs des droits de l'homme détenus depuis 6 mois au Niger. Les syndicalistes Moudi Moussa et Alidou Mounkaïla et Makoul Zodi, coordinateur national du mouvement mondial Tournons la page, ont été arrêtés après des manifestations dénonçant des surfacturations d'équipements à l'armée. Tous les 3 sont accusés d'organisation d'un rassemblement non autorisé, incendie criminel, dommage aux biens publics et homicide involontaire. L'opposition ivoirienne a vivement critiqué aujourd'hui le Conseil constitutionnel après sa validation de la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat. Le Conseil constitutionnel a également rejeté 40 des 44 candidatures déposées, dont celle de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo et de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre Guillaume Soro. Par ailleurs, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à la Côte d'Ivoire de permettre à Guillaume Soro de se présenter à la présidentielle du 31 octobre. Rendez-vous en seconde partie de cette édition pour un reportage de notre correspondante sur place, Aïcha Diarra. Washington a annoncé aujourd'hui des sanctions économiques visant Zineb Jammeh, la femme de l'ancien président de Gambie. Yahya Jammeh est également accusé de corruption au cours de ses 22 ans de dictature et lui-même visé par des sanctions américaines. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui le département d'État et le Trésor. En Guinée-Bissau, le ministère de l'Intérieur a annoncé le limogeage du lieutenant-colonel Alassana Diallo pour implication présumée dans un trafic de drogue. Monsieur Diallo était depuis juillet directeur du service des migrations et des frontières. Il a été arrêté pour des faits survenus en mars, quand il dirigeait la brigade de recherche de la garde nationale. En République démocratique du Congo, l'ex-président Joseph Kabila a fait son retour en politique aujourd'hui, en siégeant brièvement pour la première fois au Sénat, sur fond de tensions au sein de la coalition au pouvoir. Eddy Issango.
Écharpe des sénateurs en bandoulière, l'ancien chef de l'État s'est assis au premier rang pour suivre le discours du président de la Chambre haute. C'était la première apparition de Joseph Kabila avec un titre officiel depuis qu'il a passé les symboles du pouvoir au président Félix Tshisekedi le 29 janvier 2019. Pour ceux de son parti, les PPRD, l'apparition de Joseph Kabila devrait couper court à toute spéculation sur ses intentions politiques. Monsieur Kabila est un homme des paroles, il avait déclaré que son sort était scellé par la Constitution. Aujourd'hui, il honore les institutions, a déclaré à VOA Afrique Némi Mulania, le coordonnateur du FCC. Le pays est sous une tension politique et beaucoup voient souvent l'ombre de M. Kabila au centre de celle-ci. Certains, comme les leaders de l'AMOUKA, l'accusent de garder les vrais pouvoirs. M. Kabila est à la tête du FCC, plateforme qui est en coalition du pouvoir avec son successeur Félix Tshisekedi, mais qui détient la majorité dans les institutions. Une vidéo de lui le montre avec d'autres sénateurs blaguant, demandant que la mention à vie soit ajoutée à son écharpe.
En Algérie, incarcéré depuis près de 6 mois, le journaliste Khaled Drareni a été condamné en appel à 2 ans de prison ferme. Plus de détails avec Yacouba Ouedraogo.
2 ans de prison ferme pour Drareni, nous allons faire un pourvoi en cassation, a déclaré maître Mustapha Bouchachi, l'un des avocats de Khaled Drareni. Le frère du journaliste Chekib s'est dit écœuré, choqué et déçu de la décision de la cour. Khaled Drareni a été condamné pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Il a été jugé en compagnie de Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche, deux figures du Hirak, qui ont écopé de 4 mois de prison et sont donc ressortis libres pour les avoir déjà purgés. Khaled Drareni a été arrêté en mars après avoir couvert à Alger une manifestation d'étudiants dans le cadre du Hirak, mouvement de contestation qui réclame un changement du système politique en place depuis l'indépendance. Il a aussi été accusé d'avoir critiqué sur Facebook la corruption et l'argent du système politique, selon Reporters sans frontières. M. Drareni est le fondateur du site d'information Kasbak Tribune et correspondant en Algérie pour TV5 Monde et Reporters sans frontières. Son maintien en détention est la preuve d'un enfermement du régime dans une logique de répression absurde, injuste et violente, a réagi Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À la Maison Blanche aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont signé un accord historique avec l'État hébreu. Le président Donald Trump a déclaré que 5 ou 6 pays arabes supplémentaires s'apprêtent à conclure des accords de normalisation de leurs relations avec Israël. Nous faisons le point avec Abdourahman Dia.
Le président américain Donald Trump a évoqué à la Maison-Blanche l'avènement d'un nouveau Moyen-Orient à l'heure de la signature d'accords historiques entre Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Nous sommes très avancés avec environ 5 pays supplémentaires, a dit le président américain sans nommer ses États. Pour ceux qui portent les blessures de la guerre, chérissent les bienfaits de la paix, ce que nous faisons aujourd'hui est énorme, d'abord parce que cette paix s'étendra éventuellement à d'autres États arabes et elle peut mettre fin au conflit israélo-arabe une fois pour toutes. Les Émirats l'ont remercié d'avoir stoppé l'annexion des territoires palestiniens. Mais en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de jeunes ont manifesté contre ces accords qu'ils ont qualifiés de coups de poignard dans le dos des Palestiniens.
La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait près de 930 000 morts dans le monde depuis fin décembre. Pays le plus endeuillé, les États-Unis approchent les 200 000 morts. Au Royaume-Uni, toutes les rencontres entre famille ou amis sont interdites à Birmingham, la deuxième ville du pays. La Chine a affirmé qu'un vaccin contre le Covid-19 pourrait être disponible pour le grand public dans le pays dès novembre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le FMI demande à la République démocratique du Congo de la transparence dans ses contrats miniers en préalable à toute négociation pour un prochain programme d'aide. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et son sous-sol contient de nombreux autres minerais dont le cuivre, l'or, le coltan et la cassitérite. En 2012, le FMI avait suspendu son programme avec la RDC à cause du manque de transparence dans la gestion des mines. L'opacité des contrats miniers favorise la corruption, d'après des ONG. Le Nigeria doit plus que doubler les prêts bancaires qu'il accorde au secteur agricole à 10% contre 4% au cours des 4 prochaines années pour stimuler la production alimentaire, a déclaré ce mardi le gouverneur de la Banque centrale. Le Nigeria dépend des importations, y compris des produits alimentaires, pour répondre à ses besoins en raison de sa capacité de fabrication limitée. Pour terminer, l'Organisation mondiale du commerce condamne les taxes douanières punitives que les États-Unis ont imposées à la Chine, les jugeant contraires aux règles du commerce international. L'organisation recommande que l'administration Trump rende ses mesures conformes à ses obligations. Ce cas porté par Pékin devant l'OMC en 2018 porte sur une première tranche des droits de douane imposés par les États-Unis sur quelque 250 milliards de dollars des biens chinois. Ces tarifs punitifs ont marqué le début d'une guerre commerciale entre les deux géants économiques.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a prolongé son contrat avec Arsenal. Le capitaine des Gunners, dont le contrat arrivait à terme l'an prochain, est désormais lié au club anglais jusqu'en 2023. Il devient du même coup le joueur le mieux payé du club. « Je vais devenir une légende d'Arsenal », a annoncé Aubameyang. À 31 ans, le capitaine des Panthers du Gabon affiche des statistiques affolantes. En 111 matchs depuis son arrivée, il totalise 72 buts et 2 trophées. Il partage aussi le titre de meilleur buteur de Premier League en 2019 avec Sadio Mané et Mohamed Salah. En Espagne, l'attaquant vedette du FC Barcelone, Lionel Messi, est entré dans le club très fermé des sportifs ayant amassé plus d'un milliard de dollars de revenus durant leur carrière, selon le magazine américain Forbes. L'Argentin sera le joueur de football le mieux payé de la planète en 2020 avec 126 millions de dollars, dont 92 millions en salaire pour la saison 2020-2021 et 34 millions en partenariat et autres contrats de sponsoring. Le septuple Ballon d'Or est le quatrième sportif à atteindre ce chiffre astronomique du milliard de dollars de revenus après le golfeur Tiger Woods et l'ancien boxeur Floyd Mayweather et son grand rival sur les terrains de football, Cristiano Ronaldo. Le procès dans l'affaire de droit télé de l'ex numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, et du patron de Bein Media et du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a repris ce mardi en Suisse après le rejet des requêtes de la défense. Les trois magistrats ont rejeté les arguments de la défense qui estiment cette affaire souillée, contaminée par les soupçons de collusion entre le parquet helvétique et la FIFA qui font l'objet d'une enquête ouverte cet été. Les juges ont commencé à entendre l'ancien secrétaire général de la FIFA, bras droit jusqu'en 2015, du président déchu Sepp Blatter. Le parquet lui reproche d'avoir obtenu de M. Khelaifi l'usage exclusif d'une luxueuse villa en échange de son soutien à l'obtention par Bein des droits médias des mondiaux 2026 et 2030. Basketball, l'ancien joueur de la NBA, Jeremy Lin, quitte les Ducks de Pékin après une saison en Chine pour un retour dans la Ligue américaine de basketball. Le basketteur de 32 ans, premier américain d'origine asiatique, a remporté le championnat NBA avec les Raptors de Toronto en 2019. A signé à Pékin en tant qu'agent libre. L'arrière vedette a conduit les Ducks en demi-finale du championnat élite de basket chinois où ils ont été éliminés par les futurs champions, les Tigers de Guangdong. Pendant la saison régulière CBA, Lin a totalisé des moyennes de 22,3 points, 5,7 rebonds et 5,6 passes décisives par match.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Dubourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. L'ancien président du Mali, Moussa Traoré, est décédé. Il avait dirigé le Mali d'une main de fer jusqu'à son renversement par Amadou Toumani Touré après une révolte des jeunes. Eric Manirakiza a joint Chérif Keïta, un Malien qui enseigne au Carleton College dans le Minnesota.
Tout d'abord, je m'incline devant donc sa dépouille et je transmets mes condoléances à sa famille, à ses amis et au peuple du Mali, parce que bon, il a été un président donc de mon pays, et pour cette raison-là, je m'associe à cette douleur. Mais ce que je retiens donc du régime de Moussa Traoré, qui a commencé pendant mon adolescence et qui perdurait encore jusqu'à mon âge adulte, 23 années de règne, c'est vraiment la stagnation et même le recul du pays. Par rapport même au régime de Modibo Keïta, qui voulait instaurer une économie socialiste, mais qui avait connu pas mal de ratés en 1968, et que Moussa Traoré a renversé. Donc le régime de Moussa Traoré a marqué le recul du Mali, au niveau des libertés civiques, et aussi au niveau de l'économie, et surtout, moi en tant qu'enseignant, je lui reproche d'avoir présidé au dépérissement et à la déliquescence de l'école au Mali. Parce que c'est sous lui que les enseignants ont été marginalisés. Souvent, ils n'étaient pas payés pendant 6 mois. Ils travaillaient sans être payés pendant 6 mois. Et c'est pendant cette période que l'enseignant a été dévalorisé aux yeux de la société. Cet acteur social qui était le porteur vraiment de la modernité et de tous les espoirs du développement pour mon pays, a été littéralement liquidé sur le plan social pendant les 23 années du règne de Moussa Traoré. Et jusqu'ici, nous essayons de nous remettre de cela. Et malheureusement, aucun des régimes qui est venu après lui n'a pu redresser la barre.
C'était quel genre de personnalité ?
Il a été un dictateur, il faut le dire. Il a été un dictateur qui, vers la fin de son règne, a essayé de créer un standard de démocratie en fondant un parti qui s'appelait Union démocratique du peuple malien, mais ce parti n'avait rien de démocratique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les contestations se sont exacerbées et qu'il a été renversé en 1991. Et en réalité, très peu de gens l'ont regretté.
Quelque chose de positif pendant 23 ans de pouvoir.
Très peu de choses positives, je dirais. Peut-être que quelqu'un d'autre aura un autre avis, mais moi personnellement, je ne trouve pas grand-chose de positif au régime de Moussa Traoré.
Chérif Keïta, un Malien qui enseigne au Carleton College dans le Minnesota.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, 4 candidats ont été retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle d'octobre 2020. Reportage à Abidjan de notre correspondante Aïcha Diarra.
Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Solo Tibafori.
Au départ, 44 ont déposé leur dossier de candidature pour les élections du 31 octobre 2020. Ce lundi 14 septembre, le Conseil constitutionnel a retenu 4 candidats: Alassane Ouattara du RHDP, Henri Conan Bédier du PDCI, Pascal Afinguesson du FPI et Kwadio Conan Bertin alias Katabé indépendant. S'agissant du cas particulier du président sortant Alassane Ouattara, dont l'annonce de la candidature pour briguer un troisième mandat a provoqué de violentes manifestations, les juges du Conseil constitutionnel ont estimé que sur la base du principe de la non-rétroactivité, la Constitution de novembre 2016 lui permet d'être candidat. Ses partisans se réjouissent. Silwe Pegabila est le responsable des mouvements et associations proches du RHDP dans la région du Bekin en Côte d'Ivoire.
Le droit reste le droit. Il y a des moments forcément où on peut ne pas être d'accord avec le droit. Il faut surtout, le plus important, préserver la paix, préserver la stabilité. Ne pas prendre de décision ou lancer des appels sous le fait de l'émotion.
Par contre, parmi les 40 récalés, l'on trouve de nombreux poids lourds, dont l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et les anciens ministres Albert Mabry-Toikeuse, Mamadou Koulibaly et Marcel Amotano. Décision jugée arbitraire par l'opposition. Madame Simone Gbagbo, vice-présidente du FPI de Laurent Gbagbo, appelle à un consensus pour des élections apaisées.
Nous voulons des élections justes, des élections consensuelles, des élections apaisées. Mais pour cela, il faut payer le prix. Nous pouvons encore maintenant nous asseoir et ensemble définir des modalités acceptables pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un consensus.
Ouattara Kacha Ani du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, un fervent partisan de Soro Guillaume qui dénonce une injustice de la part d'Alassane Ouattara.
Monsieur Ouattara, aujourd'hui, responsable de tous les Ivoiriens, mettre les institutions à sa solde. Nous trouvons cela injuste. Au-delà, nous ne nous limitons pas seulement au rejet de la candidature de Guillaume Soro, nous déclinons également le rejet de la candidature de tous les Ivoiriens qui, bien entendu, ont manifesté le désir d'être candidats.
Selon le Conseil constitutionnel, la plupart des dossiers rejetés n'auraient pas obtenu le nombre de parrainages requis pour leur candidature. Aïcha Diarra à Abidjan pour VOA Afrique.
Signature ce mardi à la Maison-Blanche d'accords de normalisation entre Israël et deux pays arabes, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Ce développement important dans la région est aussi une victoire diplomatique majeure pour les États-Unis qui ont poussé pour la réalisation de ces accords. Mais les Palestiniens parlent de coups de poignard dans le dos de la part des pays arabes signataires. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Montréal le professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, Jamal Abdullah.
Déjà, il y a un angle très important, c'est l'angle du droit international. Et ici, le droit international il donne toute la possibilité aux pays souverains comme les Émirats Unis et Bahreïn à signer un accord avec un autre État. Aussi membre de Nations Unies. Donc ça, ça quelque chose de très assuré par le droit international. Par contre, il y a aussi une partie politique dans cette affaire. Et cette partie politique, c'est un engagement qui était fait en fait de la part des Émirats Unis et de Bahreïn et d'autres pays arabes, tous les 22 pays arabes qui font partie de la Ligue des États arabes. C'est l'initiative présentée en 2002 par le roi Abdullah, le roi, l'ancien roi de l'Arabie Saoudite, pour faire la paix avec l'État d'Israël. Donc, effectivement, actuellement, les autorités palestiniennes regardent cet accord comme un coup dans le dos.
Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pays qui vont suivre, des pays comme l'Arabie Saoudite?
Bien écoutez, les Émirats, il a ouvert cette porte, si vous voulez. Donc le Bahreïn, il a suivi. Je pense qu'il y a d'autres pays, effectivement, d'autres pays arabes. Et je vais un petit peu loin, ça veut dire que je vais sortir de la cycle de pays arabes pour un petit peu grandir le cycle et aller plus loin sur les pays du monde musulman. Si on parle de l'Organisation de coopération islamique qui contient 57 pays, je pense qu'il y a d'autres pays musulmans qui vont signer avec l'État d'Israël d'ici à la fin de cette année. Oui. Moi, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite il va signer un accord de paix, au moins à la présence du roi actuel de l'Arabie Saoudite, le roi Salman, qui d'ailleurs c'est une personne âgée qui a 84 ans. Mais on ne sait pas, après l'arrivée au pouvoir du prince héritier MBS, Mohamed Ben Salman, c'est le fils du roi actuel, si les affaires ils vont évoluer, ils vont changer.
Parlant de l'Iran, est-ce que vous pensez que ces nouveaux développements, ces nouveaux accords isolent de plus en plus Téhéran?
Isolent, oui, mais à la fois, il va en fait faire une sorte de... instabilité dans la région, parce que moi je lis l'accord entre les Émirats Arabes Unis et Israël, et le Bahreïn et Israël, c'est comme une création d'une nouvelle coalition, si vous voulez, dans la région. Alors, la présence éventuelle d'Israël sur la côte ouest de la mer de Golfe, ça va poser un problème dans l'avenir.
C'était Jamal Abdullah, spécialiste du Moyen-Orient.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Israël normalise ses relations avec deux pays arabes, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, sous l'égide de Washington. Jusque-là, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à entretenir des relations diplomatiques avec l'État hébreu, la question palestinienne étant le principal obstacle. Que signifient ces derniers accords de normalisation pour la région et les États-Unis? Qu'en est-il de l'Afrique quant au conflit israélo-palestinien? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joseph Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Aloys Ndimbati, ancien responsable municipal de la République du Rwanda, est recherché pour sa participation au génocide de 1994 au Rwanda. En tant que maire de la commune de Gisovu, dans la préfecture de Kibuye, Ndimbati est accusé d'avoir ordonné aux agents des polices municipales et nationales de traquer les personnes qui s'étaient réfugiées dans les collines de la région de Bessesso pour échapper à la violence. Pendant une dizaine de jours, ces attaques ont fait des dizaines de milliers de morts et un grand nombre de blessés. Pour ces crimes et d'autres, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, devenu le mécanisme résiduel des tribunaux internationaux, a inculpé Ndimbati de génocide et crimes de guerre et lancé un mandat d'arrêt contre lui. Les États-Unis coopèrent avec d'autres gouvernements, les Nations Unies et le mécanisme résiduel pour rendre plus difficiles les tentatives d'Ndimbati et d'autres en vue d'échapper à la justice. Si vous avez des informations sur la position et les activités d'Aloys Ndimbati ou si vous connaissez quelqu'un en disposant, vous pouvez les communiquer en toute confidentialité. Visitez le site internet de l'ambassade américaine ou du consulat le plus proche pour contacter le bureau régional de sécurité. Envoyez un email au programme américain de prime contre les crimes de guerre à l'adresse suivante wcrp@state.gov ou contactez-nous par WhatsApp au 202-975-5468. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook à www.facebook.com/WarCrimesRewardsProgram. De même que vous pouvez nous suivre sur Twitter à www.twitter.com/WarCrimesRewards pour les photos des personnes recherchées. Toutes les informations crédibles feront l'objet d'enquête et les identités de tous ceux qui les auront fournies seront tenues confidentielles.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.